Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, en essayant de définir la vertu, j'ai commencé par retenir trois critères de celle-ci, à savoir la perfection, l'obéissance et la kénose ou effacement. Par vertu, j'ai entendu le fait non pas simplement d'obéir, mais de faire plus qu'obéir en s'effaçant devant ce que les philosophes appellent la chose même, afin que celle-ci soit dans toute son ampleur, dans toute sa splendeur. Quand Dieu crée le monde, il ne vit pas à la place du monde et de l'homme, mais il s'efface devant le monde et l'homme pour que ceci soit. Et c'est ainsi qu'il est le créateur même devant la création même, dans la mesure où, comme le créateur, il s'efface devant ce qu'il crée. C'est manifeste en art où un artiste est un créateur dans la mesure où il s'efface devant ses propres œuvres pour que celles-ci vivent et pour que l'art vive. Dieu est créateur parce qu'il s'efface devant la création. L'artiste est un artiste parce qu'il s'efface devant la création. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois quand il a été question de la chose même. Aujourd'hui, je voudrais terminer cette analyse de la vertu et de sa définition en introduisant un cinquième élément, à savoir ce qu'on appelle l'éminence, ce que le Moyen-Âge a appelé l'éminence. Qu'est-ce que c'est que l'éminence? Qu'est-ce que c'est que le principe d'éminence? Le principe d'éminence me paraît être la caractéristique de la pensée chrétienne. Et il consiste à dire que les choses sont ce qu'elles sont quand elles sont éminemment ce qu'elles sont. Être éminemment ce que l'on est consiste à être tellement plein de son propre être que l'on est parce que on fait plus qu'être. On est par l'éminence dans l'être de l'être. On est dans la plénitude de l'être. Et c'est cette plénitude qui caractérise la réalité divine. Et c'est cette plénitude que Dieu fait vivre quand il crée. C'est cette plénitude qui se trouve dans l'homme quand l'homme est créé à l'image de Dieu, dans l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu crée l'homme comme plénitude en faisant de l'homme et de sa plénitude l'image de sa propre plénitude. La plénitude ou éminence est bien caractérisée quand Denis l'Aréopagite te dit de Dieu que Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant. Hegel a appelé philosophie le fait que la pensée accède à l'identité de l'identité et de la différence. C'est-à-dire que la pensée puisse réconcilier le même et l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, réconcilier le même et l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire l'identité de l'identité et de la différence? C'est exactement ce que l'on trouve dans la plénitude. Quand une réalité est vraiment ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est parce qu'elle est plus que ce qu'elle est. Et donc, elle est autre puisqu'elle est plus que ce qu'elle est, mais elle est la même puisqu'elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est parce qu'elle est plus que ce qu'elle est, et comme elle est plus que ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. Elle est dans son identité parce qu'elle est dans sa différence, elle est dans sa différence parce qu'elle est dans son identité. Dans l'éminence, la différence et l'identité se confondent. Et se confondant, elle donne naissance à la pensée de la plénitude. Le Christ, dans la tradition orthodoxe, est dit Pantocrator, tout-puissant. Tout-puissant veut dire non pas omnipotent au sens du pouvoir, mais rassembleur, unificateur, pacificateur, celui qui rassemble tout, qui récapitule tout. Le Christ récapitule tout quand il permet tout à tout d'aller dans la plénitude et sa plénitude. Cette plénitude est représentée par la croix même qui rassemble tout, le vertical et l'horizontal, en décrivant une sphère qui s'ouvre et qui rayonne en embrassant tout. C'est la raison pour laquelle la croix est synonyme de la gloire. Hans Urs von Balthasar a écrit un ouvrage majeur intitulé « La gloire et la croix » et dans lequel il analyse les figures de la gloire symbolisées par la croix. La croix n'est pas le supplice, la croix est l'abolition du supplice et la transfiguration de la réalité par la capacité de tout embrasser. La vertu consiste à vivre éminemment toute chose. Vivre éminemment toute chose, c'est ce qui se passe quand on les vit intérieurement et quand on les vit intégralement de tout son être, des pieds à la tête. C'est la raison pour laquelle la figure de l'éminence a été choisi par les pères et les spirituels pour penser avec le Christ, dans la lumière du Christ, à la suite du Christ. Qu'est-ce que penser d'une manière chrétienne et christique? Penser d'une manière chrétienne et christique consiste à faire mieux que penser en étant plus que dans la pensée. Que de choses changeraient si on apprenait à vivre les choses avec ce principe du plus que. On serait hyper attentif à l'existence en pouvant dégager la richesse qui se trouve en elle. On changerait complètement la relation que l'on a avec Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à parler de Dieu? C'est qu'on parle de Dieu d'une manière morte. On en fait une chose qui est une chose qui ne vit pas. On se demande si Dieu existe. Et quand on se demande si Dieu existe, on se demande si un objet appelé Dieu se trouve à l'origine du monde. Et bien évidemment, on a du mal à voir comment un objet inerte, dépourvu de toute création, peut être à un moment le principe de création. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut être pensé comme le Créateur? C'est que Dieu n'est pas simplement Dieu. Dieu n'est pas banalement Dieu. Dieu est tellement Dieu qu'il est plus que Dieu. Il est formidablement Dieu. Il est extraordinairement Dieu. Et par là même, quand on le pense ainsi, par définition, il est extraordinaire. Il est Créateur. Parce qu'on ne peut pas être extraordinairement ce que l'on est sans être créateur. Donc, avant tout, Dieu n'est pas tant le créateur du monde que le créateur de Dieu lui-même. Il ne cesse de créer Dieu en allant au-delà de Dieu. Et c'est ce qui est exprimé par la divine Trinité, c'est-à-dire par le fait qu'il se fait fils et qu'avec le fils, il va au-delà du Père et du Fils dans l'Esprit pour que l'Esprit emmène tout. Penser d'une manière christique et donc chrétienne consiste à penser extraordinairement. Et c'est ce que veut dire la vertu chrétienne bien comprise. La vertu chrétienne bien comprise consiste non pas à être bien sage et bien obéissant comme un enfant sage sur les images d'Épinal, mais être dans la vertu chrétienne consiste à être plus que vertueux, et être plus que vertueux consiste à vivre non pas banalement, mais extraordinairement, en rendant grâce de pouvoir ainsi vivre une telle existence.
Să
c'était la liturgie chantée de façon byzantine par un chœur roumain dirigé par Jean Maximovitch. Au cours de ce mois de septembre, nous avons eu l'occasion de suivre Jean Kowalewski dans sa méditation sur la liturgie céleste. Quand il présente cette liturgie céleste, Jean Kowalewski explicite d'une façon inspirée ce qu'il faut entendre par beauté. Cette beauté qui permet à l'homme de retrouver son harmonie brisée. Platon l'a déjà vu dans le banquet, lorsqu'il montre que l'expérience de la beauté n'est pas une morne expérience sommeillante de beauté, au sens de sommeil idéal, mais une dynamique qui nous emmène toujours au-delà de nous-mêmes, vers le plus que vivant, dont parlera Denis l'Aréopagite. Par là même, Jean Kowalewski montre pourquoi la beauté du cosmos réconcilie le cœur brisé de l'homme. C'est parce qu'elle lui permet d'aller au-delà de lui-même. Dans sa demeure profonde, son éthos, éthos qui donne éthique, voulant dire demeure. Cette demeure, c'est ce que nous appelons le temple, qui est aussi désigné par le corps. S'il y a le temple cosmique, s'il y a le temple terrestre et s'il y a le temple intérieur, il y a le corps cosmique, il y a le corps humain et il y a le corps ecclésial. Jean Kowalewski écrit à ce sujet: dans la Bible, Ézéchiel voit le ciel s'ouvrir. Au moment où le Christ est baptisé, le ciel s'ouvre. Dans l'évangile de Jean, le Christ dit « Vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Les cieux désignent le monde angélique et noétique. L'ouverture des cieux désigne le contact avec le monde angélique désigné dans l'Écriture par l'armée céleste. Le royaume des cieux désigne le royaume de Dieu. Là où est Dieu, là sont les anges. Là où sont les anges, là est Dieu. Les cieux sont utilisés afin de bien marquer la différence entre le visible et l'invisible. La crise moderne du christianisme vient de ce que celui-ci est fermé à la sphère noétique. Bon nombre de chrétiens préfèrent le théisme de Voltaire au théisme du Père qui est dans les cieux, au Dieu Sabaoth trois fois saint, au Dieu des armées célestes, des hiérarchies et de l'ordonnance symphonique des anges. Nous n'avons pas toujours l'habitude de considérer le christianisme ainsi. La façon dont on considère l'Évangile est le plus souvent marquée par des préoccupations humaines, ô combien honorables, des préoccupations sociales, politiques. Il s'agit de pacifier le monde, et de faire en sorte que celui-ci sorte des discordes et des conflits qui l'ensanglantent et l'enténèbrent. Mais s'il faut réconcilier le monde, ce n'est pas simplement pour la paix au sens extérieur, mais pour la paix au sens intérieur. Et cette paix, nous l'avons quand nous comprenons en profondeur le sens de toute chose. Et nous comprenons le sens de toute chose quand nous arrivons à l'intelligence de toute chose, c'est-à-dire à l'esprit génial qui se trouve à la base de toute chose. Et cet esprit génial qui est à l'origine de toute chose, c'est ce qui se passe quand on a affaire à l'ouverture du monde noétique. S'il y a le monde matériel, le cosmos, s'il y a le monde humain, l'anthropos, s'il y a le monde divin qui est le monde noétique, le monde de la connaissance, le monde de la plénitude, où nous sommes en paix parce que nous avons une réponse en profondeur à la question de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Nous ne sommes pas rien, nous ne venons pas de rien, nous n'allons pas vers rien. Pourquoi ? Parce que nous sommes reliés à une source ineffable d'une beauté dépassant tout et proprement géniale. Quand nous entendons cette parole à l'intérieur de nous, nous sommes dans une jubilation infinie et il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de soupirs, il n'y a plus de larmes, mais au contraire, une joie infinie qui embrasse tout. Et pour terminer cette émission, je vous propose à nouveau Jean Maximovitch et son chœur byzantin chantant en roumain.
Amen. Sind der